Bienvenue. Aujourd'hui, on fait un petit saut dans le passé, bien avant 1789, pour chercher les racines d'une idée qui nous semble évidente aujourd'hui, les droits individuels.
Oui, et on va s'appuyer sur des travaux qui explorent justement la genèse médiévale du droit subjectif. L'idée, c'est que ça n'a pas surgi de nulle part avec les Lumières.
Exactement. On va voir comment la notion de us, le droit, a pu glisser d'une vision très extérieure, très objective, à quelque chose de plus personnel, une faculté propre.
C'est ça. Et pour comprendre ce glissement, il faut partir du is romain. Pour les Romains, le is, c'était avant tout l'ordre juste des choses, ce qui est droit.
Pas tellement mon droit à moi, mais le droit. Comme un ordre un peu cosmique.
Voilà, hérité aussi des stoïciens. Le droit est objectif, il préexiste à l'individu. C'est pas une réclamation personnelle.
D'accord. Un cadre un peu imposé, quoi. Et alors, comment l'individu commence à en faire là-dedans? C'est avec la pensée chrétienne?
Eh ben oui. Progressivement, l'accent mis sur, disons, la conscience, le salut individuel, le rapport direct à Dieu, tout ça, ça fait émerger l'idée d'un sujet moral.
Un sujet avec ses propres capacités.
Exactement. Et ce terreau, il va être super fertile dans le droit de l'Église, le droit canonique.
Alors, allons-y. 12e siècle, Gratien. Il compile plein de textes canoniques.
Oui, dans sa fameuse Concordia.
Et là, il y a un concept clé qui nous intéresse. Le jus proprium, le droit propre. L'exemple donné, c'est « clerici habent jus proprium ». Les clercs ont un droit propre.
C'est ça. Et c'est pas juste un privilège qu'on leur accorde de l'extérieur, non. C'est vu comme un droit qui découle de leur état, de leur fonction sacrée. C'est intrinsèque.
Ah, d'accord. C'est lié à ce qu'ils sont. Exactement. Et Gratien, il applique ça aussi ailleurs. Par exemple, pour le mariage, il dit « consensus facit nuptias », le consentement fait le mariage.
Oui, et ça, ça veut dire qu'on reconnaît un vrai pouvoir aux époux. C'est leur volonté mutuelle qui crée le lien.
Ah oui, quand même. Le fait de mettre le consentement au centre, c'est déjà une reconnaissance forte de l'individu, non? Ça devait être assez neuf comme idée.
Tout à fait. C'est une étape importante. Et juste après, on a Ugo Gio de Pise, fin du XIIe siècle. Lui, il va donner une définition du jus hyper importante.
Laquelle?
Il dit que le jus, le droit, c'est une faculté licite d'user d'une chose. Et il le distingue bien de la lex, la loi.
Attendez, une faculté licite. Donc, si je comprends bien, la lex, la loi, ce serait un peu le code de la route, les règles générales.
Oui. On peut dire ça.
Et le jus, ce serait alors le permis de conduire.
La capacité effective que j'ai, moi, de conduire en respectant ces règles.
C'est une très bonne image, oui. La loi donne le cadre, et le jus, c'est la capacité d'agir, la faculté qui est reconnue au sujet dans ce cadre.
D'accord.
Et Augustus, il distingue toujours le jus commune, pour tous, du jus proprium, lié à un statut. Mais en parlant de faculté, il ouvre vraiment la porte à une vision plus subjective.
Et on voyait ça où concrètement?
Ces facultés licites, au-delà des clercs ou du mariage. Vous parliez de charte.
Oui, alors on pense souvent à la Magna Carta en Angleterre, 1215, les garanties pour les hommes libres, contre l'arbitraire, tout ça.
Mmh.
Mais en France aussi, on a des exemples. Prenez les coutumes de Loris, c'est plus ancien. Elle fixait, par exemple, le montant maximum du cens, l'impôt d'annuel, dû au seigneur. Loris, ils avaient une faculté reconnue, le droit de ne pas payer plus que ça. Ils avaient aussi une protection contre la taille arbitraire, un autre impôt.
Ah oui, donc c'est très concret, c'est pas un grand principe abstrait.
Exactement, c'est un us proprium, une capacité précise liée au fait d'être bourgeois de Loris. C'est pas encore le droit universel de l'homme avec un grand H. C'est un droit incarné, si on veut.
Je vois. Très ancré dans le statut, le territoire. Et la théologie, là-dedans, Thomas d'Aquin, au XIIIe siècle, il en dit quoi?
Alors, Thomas d'Aquin, lui, il va chercher un fondement plus métaphysique, on pourrait dire. Pour lui, le droit naturel, le jus naturale, il vient de la loi éternelle de Dieu, la lex eterna.
Ok.
Et posséder des biens pour assurer sa subsistance, se défendre. Ses facultés, c'est le jus qui est inscrit dans sa nature même.
Donc la source du droit subjectif, pour Thomas, elle est dans la nature humaine elle-même, mais comprise dans un ordre divin. C'est ça, le droit des hommes ne ferait que reconnaître ça.
C'est l'idée fondamentale qui est présentée, oui. Le droit n'est pas juste une création de la volonté humaine, il est découvert dans cet ordre naturel des choses, où la personne raisonnable et libre occupe une place centrale.
Bon, alors, si on résume un peu, ce qu'il faut retenir, c'est que cette idée d'un droit qui appartient à la personne, une sorte de pouvoir d'agir, elle n'a pas attendu le XVIIIe siècle.
Non, clairement pas. Elle prend racine bien avant au Moyen-Âge.
Surtout via le droit canonique, la théologie. On passe d'une vision du droit comme un ordre purement extérieur, objectif, à une conception qui intègre, une part subjective.
Oui, d'abord liée au statut, à la fonction, puis de plus en plus à la nature humaine elle-même, telle qu'on la comprenait à l'époque.
Et ça nous amène à une dernière question, peut-être.
Oui.
Si on prend au sérieux ses origines, où les droits étaient pensés comme des capacités très concrètes, souvent liées à des rôles, des relations, une idée de bien commun, est-ce que ça pourrait changer quelque chose à notre façon de voir les droits aujourd'hui?
C'est une bonne question. Est-ce que ça pourrait nous inviter à voir les droits moins comme des titres abstraits, universels, parfois un peu, désincarnés, et plus comme des facultés qui s'inscrivent dans des contextes, des responsabilités, des relations spécifiques? Ça donne à réfléchir, non?